Les fiancés, chapitre 10. Il est des moments où l'âme, surtout dans le jeune âge, est disposée de telle sorte que la moindre instance suffit pour en obtenir tout ce qui peut avoir une apparence de bien et de sacrifice. Comme la fleur qui vient d'éclore s'abandonne mollement sur sa tige fragile, prête à livrer ses parfums au premier souffle de l'air qui se fasse sentir alentour. Ces moments, qu'il faudrait admirer avec un timide respect, sont précisément ceux que l'astuce intéressée épie attentivement et saisit à la volée pour surprendre et pour lier une volonté qui ne se garde point. À la lecture de cette lettre, le prince vit aussitôt s'ouvrir un jour pour l'accomplissement de ses anciens et constants desseins. Il fit dire à Gertrude de se rendre auprès de lui, et en l'attendant, il se disposa à battre le fer pendant qu'il était chaud. Gertrude parut, et sans lever les yeux sur le visage de son père, elle se jeta à genoux et eut à peine la force de dire « Pardon !» Il lui fit signe de se relever, mais d'une voix peu propre à ranimer un courage défaillant, il lui répondit que, pour obtenir le pardon, il ne suffisait pas de le désirer et de le demander, que rien n'était plus naturel et plus facile de la part de toute personne prise en faute et qui craint la punition, que ce pardon, en un mot, il fallait le mériter. Gertrude, en tremblant, demanda humblement ce qu'elle avait à faire. Le prince, nous ne saurions en ce moment lui donner le nom de père, ne répondit pas d'une manière directe, mais se mit à parler au long de la faute de Gertrude, et ses paroles passaient, cuisantes sur l'âme de la pauvre fille, comme une main rude sur une plaie. Il continua, disant que quand même, par événement, il aurait pu précédemment avoir quelque idée de l'établir dans le monde, elle venait elle-même d'y mettre un obstacle insurmontable, puisqu'un gentilhomme, nourri comme lui des lois de l'honneur, n'oserait jamais faire à quelqu'un d'honnête le cadeau d'une demoiselle qui avait ainsi donné la mesure de ce dont elle était capable. La malheureuse était anéantie. Alors le prince, radoucissant par degrés sa voix et ses paroles, poursuivit en disant que, cependant, à toute faute, il y avait remède et miséricorde, que la sienne était de celles pour lesquelles le remède est le plus clairement indiqué, qu'elle le devait voir dans ce triste accident comme un avertissement pour reconnaître que la vie du monde était trop pleine de dangers pour elle. « Ah oui !» s'écria Gertrude, agitée par la crainte, préparée par la honte et momentanément entraînée par un mouvement de sensibilité. « Ah, vous le sentez vous-même » reprit aussitôt le prince. « Eh bien, qu'il ne soit plus question du passé. Dès ce moment, tout s'efface. Vous avez pris le seul parti honorable, convenable, qui restât à votre disposition. Mais parce que vous l'avez pris de bon gré et de bonne grâce, c'est à moi maintenant, à vous le rendre agréable de toutes les manières, à vous en faire revenir tout le mérite et tout le fruit. J'en prends le soin. » En disant ces mots, il agita une sonnette qui était sur la table et dit au domestique qui se présenta « La princesse et le jeune prince, sur le champ. » Puis il continua, s'adressant à Gertrude. « Je veux sans retard leur faire partager ma joie. Je veux qu'immédiatement, tous commencent à vous traiter comme il convient. Vous avez connu en partie le père sévère, mais désormais, vous connaîtrez en entier le père plein d'amour. » En entendant ces paroles, Gertrude était dans une sorte d'étourdissement. Tantôt elle se demandait comment ce « oui » qui lui était échappé avait pu avoir une signification si étendue. Tantôt elle cherchait s'il y avait moyen de le reprendre, d'en restreindre le sens. Mais la persuasion du prince paraissait si entière, sa joie si jalouse, sa bienveillance si conditionnelle, que Gertrude n'osa prononcer un mot qui pût le moins du monde troubler en lui de semblables dispositions. Au bout de quelques moments, arrivèrent les deux personnes mandées, et voyant là Gertrude, elles portèrent sur elle un regard d'incertitude et d'étonnement. Mais le prince, d'un air joyeux et tendre, qui leur en prescrivait un pareil, « Voilà, dit-il, la brebis égarée, que cette parole soit la dernière qui rappelle de tristes souvenirs. Voilà la consolation de la famille. Gertrude n'a plus besoin de conseils. Ce que nous désirions pour son bien, elle l'a voulu d'elle-même. Elle est décidée. Elle m'a fait entendre qu'elle est décidée. » Ici, la jeune fille leva vers son père un regard moitié consterné, moitié suppliant, comme pour lui demander de s'arrêter. Mais il poursuivit hardiment. « Qu'elle est décidée à prendre le voile !»«
Bien, à merveille !»
s'écrièrent ensemble la mère et le fils, et l'un après l'autre, ils embrassèrent Gertrude, qui reçut ces démonstrations amicales avec des larmes, où l'on voulut voir des larmes de joie. Alors le prince s'étendit dans l'explication de ce qu'il ferait pour rendre heureux et brillant le sort de sa fille. Il parla des distinctions dont elle jouirait dans le couvent et dans le pays, que là elle serait comme princesse, comme représentant la famille, qu'aussitôt que son âge le permettrait, elle serait élevée à la première dignité, et qu'en attendant, elle ne serait sujette que de nom. La princesse et le jeune prince ne cessaient de renouveler leurs félicitations et leurs applaudissements. Gertrude était comme au pouvoir d'un songe. « Nous aurons ensuite à fixer le jour où nous irons à Monza faire la demande à l'abbesse, » dit le prince. « Comme elle sera contente, je vous assure que tout le monastère saura apprécier l'honneur que Gertrude lui fait. »
« Eh, mais pourquoi n'irions-nous pas aujourd'hui même ?
Gertrude sera bien aise de prendre un peu l'air. »
« Je le veux bien, allons, » dit la princesse. « Je vais donner les ordres nécessaires, » dit le jeune prince.
« Mais, » prononça timidement Gertrude.
« Doucement, doucement, » reprit le prince, « laissons-la décider elle-même. Peut-être aujourd'hui ne se sent-elle pas disposée pour cette course et préférerait-elle attendre à demain. Dites, voulez-vous que nous y allions aujourd'hui ou demain ?»«
Demain, » répondit d'une voix faible Gertrude, à qui il semblait que c'était quelque chose encore que de gagner un peu de temps.
« Demain, » dit solennellement le prince, « elle a décidé qu'on irait demain. En attendant, je vais chez le vicaire des religieuses pour arrêter le jour de l'examen. »
Aussitôt dit, le prince sortit et daigna vraiment, ce qui de sa part n'était pas peu de chose, se transporter chez ce vicaire avec lequel il fut convenu que celui-ci viendrait dans 2 jours. Dans tout le reste de cette journée, Gertrude n'eut pas une minute de calme. Elle aurait désiré reposer son âme de tant d'émotions, laisser, pour ainsi dire, s'éclairer ses pensées, se rendre compte à elle-même de ce qu'elle avait fait, de ce qui lui restait à faire, savoir ce qu'elle voulait, ralentir un instant le mouvement de cette machine qui, à peine mise en jeu, allait si précipitamment. Mais il n'y eut pas moyen. Les occupations se succédaient sans interruption, s'enchaînaient l'une dans l'autre. Aussitôt que le prince fut parti, elle fut conduite dans le cabinet de toilette de la princesse pour y être, sous sa direction, coiffée et habillée par sa propre femme de chambre. La dernière main n'avait pas encore été donnée à cette opération que l'on vint annoncer que le dîner était servi. Gertrude passa au milieu des inclinations des domestiques qui marquaient ainsi la part qu'il prenait à sa guérison et elle trouva dans la salle à manger quelques parents, parmi les plus proches, qui avaient été invités à la hâte pour lui faire honneur et pour se féliciter avec elle des 2 événements heureux, sa santé rétablie et sa vocation déclarée. La sposina, la jeune épouse, c'est ainsi qu'on nommait les jeunes postulantes pour le voile, et tous, au moment où Gertrude parut, la saluèrent de ce nom. La sposina eut fort à faire pour répondre aux compliments qui lui pleuvaient de tous côtés. Elle sentait bien que, par chacune de ses réponses, elle acceptait ses félicitations et en confirmait le sujet. Mais comment répondre autrement? Peu après qu'on fut sorti de table, vint l'heure de la trottata. Note du traducteur. Promenade en voiture. Il est encore d'usage, dans les principales villes d'Italie, que toutes les personnes ayant un équipage s'en servent vers la fin du jour pour aller faire un tour de promenade qui est presque toujours le même. Et en revenant, toutes ces voitures s'arrêtent et se réunissent sur un point donné, ordinairement près d'un café, d'où l'on se fait apporter des rafraîchissements. Fin de la note. Gertrude monta en carrosse avec sa mère et 2 de ses oncles qui avaient été du dîner. Après le tour ordinaire, on se rendit à la Strada Marina, qui alors traversait l'espace occupé aujourd'hui par le jardin public, et c'était le lieu où les gens de qualité venaient en voiture se délasser des travaux de la journée.
Les oncles aussi parlèrent à Gertrude comme le comportait la circonstance. Et l'un d'eux, qui, plus que l'autre, paraissait connaître chaque personne, chaque équipage, chaque livrée, et avait à tout moment quelque chose à dire sur monsieur tel ou madame tel que l'on rencontrait, s'adressa tout à coup à sa nièce et lui dit « Ah, friponne, vous tournez le dos, vous, à toutes ces vanités. Vous êtes une fine commère. Vous nous plantez là dans nos misères, nous autres pauvres mondains, pour vous retirer dans une vie de bonheur et vous rendre en paradis sur des roulettes. » Vers la nuit, on rentra, et les domestiques, descendant à la hâte avec des flambeaux à la main, annoncèrent que nombre de personnes étaient venues en visite et attendaient. La nouvelle s'était répandue, et les parents et amis venaient faire acte de politesse et de devoir. On entra dans le salon de compagnie. La sposina en fut l'idole, l'amusement, la victime. Chacun la voulait pour soi. Qui se faisait promettre des confitures? Qui promettait des visites? Celui-ci parlait de la mère une telle sa parente, celle-là de la mère telle autre qu'elle connaissait. Ici on vantait le climat de Monza. Là, c'étaient les discours les plus doux sur le lustre qui l'attendait dans cet heureux séjour. Quelques-uns qui n'avaient pu encore s'approcher de Gertrude, ainsi assiégée, guettaient l'occasion de s'avancer et se reprochaient ce retard de leur hommage. Peu à peu la société s'éclaircit. Tous partirent sans se reprocher plus rien, et Gertrude resta seule avec les auteurs de ses jours et son frère. « Enfin, dit le prince, j'ai eu la satisfaction de voir ma fille traitée comme doit l'être une personne de son rang. Il faut aussi convenir qu'elle s'est conduite à merveille. Elle a fait voir qu'elle ne sera pas embarrassée pour jouer le premier rôle et soutenir le décorum de la famille. » On se hâta de souper pour se retirer bientôt chacun dans son appartement et pouvoir être prêt de bonne heure le lendemain. Gertrude, contristée, dépitée et en même temps un peu glorieuse de tout ce qui lui avait été dit de flatteur, se souvint en ce moment de ce que sa geôlière lui avait fait souffrir. Et voyant son père si bien disposé à lui complaire en tout, hors une seule chose, elle voulut profiter de cette veine de faveur pour contenter au moins l'une des passions qui la tourmentait. Elle montra donc une grande répugnance à se trouver avec cette femme en se plaignant vivement de ses procédés. « Comment, dit le prince, elle vous a manqué de respect? Demain je lui laverai la tête de la bonne façon, laissez-moi faire, je lui ferai connaître ce qu'elle est et ce que vous êtes. Et en attendant, une fille dont je suis content ne doit pas voir auprès d'elle une personne qui lui déplaît. » Cela dit, il fit appeler une autre femme et lui ordonna de servir Gertrude, qui, au milieu de tout cela, cherchant la saveur de la satisfaction qu'elle avait obtenue, s'étonnait d'y en trouver si peu, en comparaison du désir qu'elle en avait éprouvé. Ce qui, malgré elle, venait tout dominer dans son âme, était le sentiment des grands progrès qu'elle avait faits dans cette journée sur la voie du cloître, la pensée que, pour s'en retirer maintenant, elle aurait besoin de bien plus de force et de résolution qu'il ne lui en aurait fallu quelques jours plus tôt, et lorsque cependant elle s'en était trouvée dépourvue. La personne qui vint pour l'accompagner dans sa chambre était une vieille femme de la maison, jadis gouvernante du jeune prince, qu'elle avait eue dans ses mains depuis l'âge du maillot jusqu'à son adolescence, et en qui elle avait mis toutes ses complaisances, toutes ses espérances, toute sa gloire. Elle jouissait de la décision prise en ce jour comme d'un bonheur qui lui était personnel. Et Gertrude, pour dernier amusement, eut à recevoir les congratulations, les éloges, les conseils de la vieille, à l'entendre conter l'histoire de certaines tantes à elle et grand-tantes qui s'étaient trouvées fort heureuses de leur état de religieuse, parce qu'appartenant à une famille si distinguée, elles avaient toujours eu ces premiers honneurs en partage, toujours su tenir une main au dehors, et de leur parloir, obtenir dans les affaires des succès auxquels de leur salon les plus grandes dames n'avaient pu atteindre. Elle lui parla des visites qu'elle recevrait, et puis, quelques jours, elle aurait celle du jeune prince avec son épouse qui, sans nul doute, serait une personne de très haut parage. Et alors, non seulement le monastère, mais tout le pays serait en mouvement. La vieille avait parlé pendant qu'elle déshabillait Gertrude, après que Gertrude s'était mise au lit. Elle parlait encore lorsque Gertrude déjà dormait. La jeunesse et la fatigue l'avaient emportée sur les soucis. Son sommeil fut inquiet, agité, plein de songes pénibles, mais ne cessa qu'à la voix glapissante de la vieille qui vint la réveiller pour qu'elle s'apprêtât à la course de Monza.
« Allons, allons, signora Sposina, il est grand jour, et avant que vous soyez coiffée et habillée, il faut une heure pour le moins. Madame la princesse était s'habiller, et on l'a réveillée 4 heures plus tôt que de coutume. Le jeune prince est déjà descendu aux écuries, puis remonté, et il est prêt à partir quand on voudra. Vive comme un levrault, ce petit lutin.
Ah, dès le berceau, il a toujours été de même, et je puis le dire, moi qui l'ai porté dans mes bras. Mais quand il est prêt, il ne faut pas le faire attendre, car quoique ce soit la meilleure patte d'enfant qui se puisse voir, alors il s'impatiente et il tempête. Pauvre ami, il ne faut pas lui en vouloir, c'est son caractère. Et puis, cette fois, il aurait bien un peu raison, puisque c'est pour vous qu'il se dérange. Gare à qui le touche dans ces moments-là, il ne connaît plus personne, si ce n'est le seigneur prince. Mais un jour, le seigneur prince, ce sera lui, le plus tard possible, cependant.
Alerte, alerte, signorina, pourquoi me regardez-vous comme ça, tout ébaudi? Vous devriez déjà être hors du nid.
À l'image du jeune prince impatient, toutes les autres pensées, qui au moment du réveil s'étaient présentées en foule à l'esprit de Gertrude, s'éloignèrent soudain, comme un voile de moineaux à l'apparition de l'épervier. Elle obéit, s'habilla à la hâte, se laissa coiffer, et parut dans le salon où son père, sa mère et son frère étaient réunis. On la fit asseoir sur un fauteuil à bras, et une tasse de chocolat lui fut apportée, ce qui, dans ce temps-là, était, comme chez les Romains, donner la robe virile. Quand on vint avertir que les chevaux étaient mis, le prince prit sa fille à part et lui dit
« Ah ça, Gertrude, hier vous vous êtes fait honneur. Aujourd'hui, vous devez vous surpasser vous-même. Il s'agit de faire une comparution solennelle dans le monastère et dans le pays où vous êtes destinée à tenir le premier rang. On vous attend. » Il est inutile de dire que le prince avait, la veille, fait avertir l'abbesse. « On vous attend, et tous les yeux se porteront sur vous. De la dignité et de l'aisance. L'abbesse vous demandera ce que vous voulez. C'est une formalité. Vous pouvez répondre que vous demandez d'être admise à prendre l'habit dans ce couvent où vous avez été élevée avec une attention si tendre, où vous avez reçu tant d'aimables soins, ce qui est l'exacte vérité. Prononcez ce peu de mots d'un ton aisé. Qu'on n'ait pas lieu de dire que vous avez été soufflée et que vous ne savez pas vous exprimer de vous-même. Ces bonnes mères ne savent rien de ce qui s'est passé. C'est un secret qui doit rester enseveli dans la famille. Ainsi, ne prenez pas un air contrit et embarrassé qui pourrait donner du soupçon. Montrez de quel sang vous sortez. Soyez poli, modeste, mais souvenez-vous que dans ce lieu, votre famille exceptée, il n'y aura personne au-dessus de vous.
Sans attendre la réponse, le prince se mit en marche. Gertrude, la princesse et le jeune prince le suivirent. Ils descendirent l'escalier et montèrent en voiture. Les embarras et les ennuis du monde, la vie heureuse du cloître, surtout pour les jeunes personnes d'un sang très noble, furent le thème de la conversation durant le voyage. Lorsqu'on fut près d'arriver, le prince renouvela ses instructions à sa fille et lui répéta plus d'une fois la formule de sa réponse. En entrant à Monza, Gertrude sentit son cœur se serrer, mais son attention fut un instant attirée par je ne sais quel personnage qui, ayant fait arrêter la voiture, débitèrent je ne sais quel compliment. Se remettant en marche, on alla à peu près au pas jusqu'au monastère, au milieu des regards des curieux qui accouraient de tous les côtés sur le chemin. Au moment où la voiture s'arrêta, devant ces murs, devant cette porte, le cœur de Gertrude se serra bien plus fort. On mit pied à terre entre deux haies de peuple que les domestiques faisaient se ranger. Tous ses yeux fixés sur la pauvre jeune personne l'obligeaient à étudier continuellement son maintien. Mais tous ensemble, il lui imposait moins que les deux yeux de son père, sur lesquels elle ne pouvait s'empêcher, quelque peur qu'elle en eût, de porter les siens à chaque instant. Et ces yeux-là gouvernaient ses mouvements et son visage comme par des rênes invisibles. Après avoir traversé la première cour, on entra dans une autre, et là se fit voir la porte du cloître intérieur, toute grande ouverte et garnie à plein de religieuses. Sur la première ligne, l'abbesse entourée des anciennes. Derrière, d'autres religieuses toutes mêlées, dont quelques-unes sur la pointe des pieds. Au premier rang, les converses montaient sur des banquettes. On voyait de plus, çà et là, briller à mi-hauteur quelques petits yeux, quelques petits minois, venir poindre à travers les robes noires. C'étaient les plus adroites et les plus hardies, parmi les pensionnaires, qui, se glissant et se faufilant entre une religieuse et l'autre, étaient parvenues à se faire un peu de jour, pour avoir aussi leur part du spectacle. De cette foule s'élevaient des acclamations. Des bras en grand nombre s'agitaient en signe de bon accueil et de joie. On arriva sur la porte. Gertrude se trouva face à face avec la mère abbesse. Après les premières politesses, celle-ci, d'un air moitié joyeux, moitié solennel, lui demanda ce qu'elle désirait en ce lieu où il n'y avait personne qui pût rien lui refuser. « Je viens, » commençait à dire Gertrude, mais sur le point de prononcer les paroles qui devaient décider presque irrévocablement de son sort, elle hésita un moment et demeura les yeux fixés sur la foule qu'elle avait devant elle. Dans ce court moment, elle aperçut l'une de ses compagnes déjà connues de nous, qui la regardait d'un air mêlé de compassion et de malice, et semblait dire « Ah, l'y voilà prise, notre habile !» Cette vue, réveillant avec plus de vivacité dans son âme tous ses anciens sentiments, lui rendait aussi un peu de son ancien et faible courage. Et déjà, elle allait cherchant une réponse quelconque, différente de celle qui lui avait été dictée, lorsque, ayant, comme pour essayer ses forces, porté un regard sur le visage de son père, elle y vit une inquiétude si sombre, une impatience si menaçante, que, devenant résolue par la peur, avec la même promptitude qu'elle eût mise à fuir devant un objet terrible, « Je viens, poursuivit-elle, demander d'être admise à prendre l'habit religieux dans ce couvent où j'ai été élevée avec une attention si tendre. » L'abbesse répondit aussitôt qu'elle regrettait beaucoup, dans cette circonstance, que les règles ne lui permissent pas de donner immédiatement une réponse pour laquelle les suffrages de toutes les sœurs devaient être recueillis et que devait précéder la permission des supérieurs. Que cependant Gertrude connaissait trop bien les sentiments que l'on avait pour elle en ce lieu pour ne pas prévoir avec certitude quelle serait cette réponse, et qu'en attendant, nulle règle n'empêchait l'abbesse et les sœurs de montrer la joie qu'elles ressentaient de cette demande. Alors s'éleva un bruit confus de félicitations et d'acclamations. Tout aussitôt vinrent de grands plateaux combles de confitures qui furent présentés d'abord à la sposina et ensuite à ses parents. Pendant que quelques religieuses se l'enlevaient, que d'autres faisaient le compliment à la mère, d'autres au jeune prince, l'abbesse fit prier le prince de vouloir bien venir à la grille du parloir où elle l'attendait. Elle avait auprès d'elle deux anciennes, et lorsqu'elle le vit paraître, « Prince, dit-elle, pour obéir aux règles, pour remplir une formalité indispensable, quoique dans cette circonstance, cependant, je dois vous dire que chaque fois qu'une jeune personne demande d'être admise à prendre l'habit, la supérieure, comme je le suis très indignement, est obligée d'avertir les parents que si, par hasard, ils forçaient la volonté de leur fille, ils encourraient l'excommunication. Vous m'excuserez. Très bien, révérende mère, je loue votre exactitude. Rien de plus juste. Mais vous ne devez pas douter. « Ô prince, à Dieu ne plaise, j'ai parlé par devoir exprès. Du reste, sûrement, sûrement, mère abbesse. » Après ce court échange de paroles, les deux interlocuteurs s'inclinèrent de part et d'autre et se séparèrent, comme si le tête-à-tête leur pesait également à tous les deux. Ils allèrent, chacun de leur côté, rejoindre leur compagnie, l'un au dehors, l'autre au-dedans de la porte du cloître. « Allons, dit le prince, Gertrude pourra bientôt jouir tout à son aise de la compagnie de ses bonnes mères. Pour le moment, nous les avons assez dérangées. » Puis il fit sa révérence, la famille s'apprêta comme lui au départ. On renouvela les compliments et l'on partit. Gertrude, pendant le retour, n'avait pas trop envie de parler. Effrayée de la démarche qu'elle avait faite, honteuse de son peu de courage, fâchée contre les autres et contre elle-même, elle faisait tristement le compte des occasions qui lui restaient de dire non, et elle se promettait faiblement et confusément que dans telle de ces occasions, ou dans telle autre encore, elle serait plus adroite et plus forte. Au milieu de toutes ces pensées, elle n'était pas tout à fait revenue de la frayeur que lui avait causé le froncement de sourcils de son père. Si bien que, lorsqu'un coup d'œil jeté à la dérobée sur la figure du prince, elle vit qu'il n'y restait aucun vestige de colère, et qu'il paraissait au contraire fort satisfait de sa conduite, cela lui sembla un véritable bonheur, et elle fut pour un moment toute contente. Dès l'arrivée, nouvelle toilette, puis le dîner, puis quelques visites, puis la promenade en voiture, puis la société du soir, puis le souper. Vers la fin de ce repas, le prince mit sur le tapis une autre affaire, le choix de la marraine. On appelait ainsi une dame qui, sur la prière des parents, devenait gardienne et accompagnatrice de la jeune postulante pendant le temps qui s'écoulait entre la demande et l'entrée au monastère. Tant qu'il était employé à visiter les églises, les édifices publics, les sociétés, les maisons de campagne, toutes les choses en un mot, les plus remarquables de la ville et des environs, afin que les jeunes personnes, avant de prononcer un vœu irrévocable, sussent bien à quoi elles renonçaient. « Il faudra songer à une marraine, dit le prince, parce que demain doit venir le vicaire des religieuses pour la formalité de l'examen, et tout de suite après, Gertrude sera proposée en chapitre pour être acceptée par les mères. » En prononçant ces mots, il s'était tourné vers la princesse, et celle-ci, croyant que c'était pour l'engager à faire sa proposition, commençait à dire « Il y aurait… » Mais le prince l'interrompit. « Non, non, princesse, la marraine doit avant tout être agréable à la sposina. Et quoique l'usage général en donne le choix aux parents, cependant Gertrude a tant de bon sens, tant de justesse d'esprit, qu'elle mérite bien qu'on fasse pour elle une exception. » Et ici, se tournant vers Gertrude, de l'air de quelqu'un qui annonce une grâce particulière, il poursuivit. Chacune des dames qui se sont trouvées ce soir dans notre société possède les qualités requises pour être marraine d'une fille de notre maison. Il n'y en a aucune, ce me semble, qui ne doive se tenir pour honorer de la préférence. Choisissez vous-même. Gertrude voyait bien que choisir était de sa part donner un nouveau consentement. Mais la proposition était faite avec tant d'appareil que le refus, pour humble qu'il fût dans les termes, pouvait avoir l'air du dédain, ou au moins paraître un caprice et une mignardise. Elle fit donc encore ce pas de plus, et nomma la dame qui, dans cette soirée, avait été le plus de son goût, c'est-à-dire celle qui lui avait fait le plus de caresses, qui l'avait le plus louée, qui l'avait traitée avec ses manières affectueuses, familières et empressées, qui, dans les premiers moments d'une connaissance, se donne l'apparence d'une ancienne amitié. « Excellent choix, » dit le prince, qui désirait et attendait précisément celui-là. Que ce fût adressé au hasard, il était arrivé ce qui arrive lorsqu'un joueur de gobelet, faisant passer devant vos yeux un jeu de cartes, vous dit d'en penser une et qu'ensuite il la devinera. Mais il les a fait passer de manière à ce que vous n'en voyez qu'une seule. Cette dame s'était si soigneusement tenue à l'entour de Gertrude pendant toute la soirée, elle l'avait tant occupée d'elle, qu'il aurait fallu à celle-ci un effort d'imagination pour porter sa pensée sur une autre. Tant d'attention n'avait pas été sans motif. La dame avait dès longtemps jeté les yeux sur le jeune prince pour en faire son gendre. Elle regardait donc les affaires de cette maison comme les siennes propres, et il était fort naturel qu'elle s'intéressât à cette chère Gertrude non moins qu'à ses plus proches parents. Le lendemain, Gertrude se réveilla avec la pensée de l'examinateur qui devait venir, et pendant qu'elle était à penser si elle pourrait saisir cette occasion si décisive de revenir sur ses pas et de quelle manière elle devrait s'y prendre, le prince la fit appeler. Ah ça, ma fille, lui dit-il, jusqu'à présent vous vous êtes conduite, on ne peut mieux. Il s'agit aujourd'hui de couronner l'œuvre. Tout ce qui s'est fait jusqu'ici s'est fait de votre consentement. Si dans l'intervalle il vous était venu quelque incertitude, quelque petit regret, des légèretés de jeunesse, vous auriez dû le déclarer. Mais au point où en sont les choses, il n'est plus temps de faire des enfantillages. Le digne homme qui doit venir ce matin vous fera sans demande sur votre vocation. Si vous vous faites religieuse de votre propre gré, et le pourquoi et le comment, et que sais-je encore. Si vous tâtonnez dans vos réponses, il vous tiendra sur la sellette qui sait combien de temps. Ce serait pour vous un ennui, un tourment, mais il pourrait en résulter quelque chose de plus sérieux. Après toutes les démonstrations publiques qui ont été faites, la moindre hésitation qui se ferait voir en vous compromettrait mon honneur. Elle pourrait faire croire que j'aurais pris une velléité de votre part pour une résolution arrêtée, que j'aurais précipité la chose, que j'aurais... que sais-je. Dans un tel cas, je me verrais obligé de choisir entre deux parties également pénibles. Ou laisser se former dans le monde une idée fâcheuse de ma conduite, et ce parti ne peut absolument s'accorder avec ce que je me dois à moi-même, ou dévoiler le véritable motif de votre résolution, et... Mais ici, voyant que Gertrude devenait écarlate, que ses yeux se gonflaient, que son visage se contractait, comme les feuilles d'une fleur au souffle de l'air chaud qui précède l'orage, il rompit ce discours et reprit d'un air serein. « Allons, allons, tout dépend de vous, de votre bon sens. Je sais que vous en avez beaucoup, et vous n'êtes pas capable de gâter un bon ouvrage lorsqu'il touche à son terme. Mais je devais prévoir tous les cas. N'en parlons plus, et convenons seulement que vous répondrez avec assurance pour ne pas faire naître des doutes dans la tête de ce brave homme. De cette manière, d'ailleurs, vous en serez quitte plus promptement. » Et ici, après lui avoir suggéré quelques réponses aux questions les plus probables, il rentra dans ses discours ordinaires sur les douceurs et les jouissances qui attendaient Gertrude dans le couvent et l'y entretint jusqu'au moment où un domestique vint annoncer le vicaire. Le prince renouvela à la hâte ses avis les plus importants et laissa sa fille avec cet ecclésiastique ainsi que la règle le prescrivait.